bon, je peux lancer?
Ouais, on va voir si ça marche. Tac, super. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs. pour vous rappeler, donc, on est sur le livre d'Exode depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'on a fait une pause pendant quelques temps, mais là, on va reprendre donc, à partir du chapitre 25. Et donc, il fallait lire le chapitre 25, le chapitre 26, le chapitre 27, le chapitre 28, le chapitre 29, le chapitre 30, le chapitre 31. Merci, les amis. Hein. Sept chapitres, wouh! Voilà. Alors j'ai pas été courageux. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Parce qu'au départ, j'avais pas prévu ce titre-là. J'avais prévu le titre Dieu est inaccessible, avec un gros panneau route barrée. J'aurais peut-être dû le laisser parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit mais pourquoi tu l'as enlevé en fait. Donc imaginez que c'est écrit Dieu inaccessible. Voilà. Le jour de mon mariage, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Ouais. Certains d'entre vous le savent, j'ai aussi un fils qui va se marier cet été, Ethan, et lui aussi, je peux vous dire qu'il a hâte. Hein. Et vous savez pourquoi ? Moi, c'était le plus beau jour parce que je savais que j'allais enfin pouvoir vivre aux côtés de Claudie, celle que j'aime, tous les jours. Et c'est la même chose pour mon fils, il a hâte de pouvoir vivre aux côtés de celle qu'il aime. Il a hâte. Deutéronome 7, les versets 7 à 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. L'Éternel vous aime. » Dieu aime son peuple. Et son plan et de demeurer au milieu d'eux, d'être avec eux. Et c'est comme ça que démarre le chapitre 25, au verset 8. Il nous est dit, « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. » Dieu parle à Moïse, et il lui donne des instructions de ce qu'il va devoir faire. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que son peuple connaisse, pour ses hauts faits, qu'il connaisse celui qui les a délivrés. On a vu ça les chapitres précédents, il a délivré son peuple de l'esclavage, de la main des Égyptiens. Il veut être leur Dieu. Il veut être avec eux. Il veut être en relation avec eux. Il veut être au milieu d'eux. Au milieu de leur vie. Alors vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses sur quelqu'un avec notre intelligence, avec notre intellect, avec tous les outils de communication qu'on a aujourd'hui, on pourrait presque tout savoir sur tout le monde. Si vous googlez mon nom, si vous le passez dans Google, vous allez sans doute apprendre que j'ai été à l'école Capuchinet, j'ai fait ma primaire à Nîmes, que j'ai deux frères, que j'ai travaillé chez Dell pendant 23 ans, que je suis ancien dans une église à Marguerite, que j'ai fait un stage en comptabilité chez mon cousin, Olivier Sarkis, et peut-être même vous verrez que je suis inscrit sur une liste électorale pour les prochaines élections municipales. Il est fait encore. Hein. Est-ce que pour autant vous me connaissez vraiment ? Un petit peu quand même. Non, mais je suis d'accord avec vous, ne vous inquiétez pas. On croit connaître les gens. On croit connaître les gens. On regarde des choses sur Internet, on voit des choses sur des personnes qu'on apprécie, des hommes, des femmes politiques, des stars de cinéma. On pense tout connaître d'eux, on pense connaître les personnes et en fait, ben, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Si on ne passe pas du temps avec eux, vous ne pouvez pas connaître vraiment. Et le plan de Dieu est de se révéler à son peuple. C'est son plan, se révéler. Et pour cela, il vient à eux, il vient demeurer au milieu d'eux. Dieu, il parle à Moïse et il lui donne des instructions. Je l'ai lu tout à l'heure, mais je le redis. « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que je te montrerai. » Exode 25, 8 à 9, merci. Je crois que c'est mieux comme ça, ouais. Le fait que Dieu ordonne la construction d'un tabernacle, ça montre ici sa volonté d'être présent au milieu de son peuple. Le plan de Dieu continue de s'accomplir, tel qu'il a prévu depuis le départ. Et il y a comme une progression croissante qui va s'étendre d'une tente, de la tente dans le désert, jusqu'à l'incarnation, où la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Habiter, L'autre signification, c'est dresser sa tente, être au milieu. Mais on va regarder ça un peu plus tard, plus en détail. Le Dieu créateur de l'univers, celui qui est omniprésent, il vient demeurer au milieu de son peuple. Il vient demeurer au milieu de son peuple. Mais Dieu, il veut demeurer au milieu de son peuple, mais pas n'importe comment. Pas à n'importe quel prix, ça ne s'improvise pas. Et il va donner à Moïse toute une série d'instructions très détaillées pour que le peuple lui construise un sanctuaire. En effet, Dieu, il est amour et Dieu, il est juste. Ce sont deux de ses attributs, ces deux attributs du caractère de Dieu, son amour et sa justice. Et Dieu, il ne peut accepter d'entrer en communion avec le péché. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Dieu, il ne peut accepter d'entrer en communion avec le péché. Et le problème, c'est le peuple de Dieu qui est pécheur. Et pour preuve, alors que même que Dieu dessine les plans à Moïse de la demeure où il habitera, au milieu d'eux, le peuple dessine un autre plan pour se passer de lui. Et ça, c'est les chapitres suivants, on le verra plus tard. Alors Dieu va donner tout un ensemble d'instructions à Moïse, un plan pour que cette relation entre lui et son peuple puisse se faire. Et ça va passer par la construction d'un sanctuaire et la mise en place de règles très précises qu'il faudra suivre. Le mot tabernacle signifie demeure. Et dans l'Ancien Testament, il n'est presque jamais utilisé pour désigner une tente servant d'abri aux hommes et désigne presque exclusivement le lieu où Dieu séjourne parmi son peuple. Et cela marque une nouvelle étape radicale dans la relation entre Dieu et l'homme, car Dieu n'a eu aucune demeure terrestre auparavant. Et cette demeure, en plus, il faudra qu'elle soit transportable. Alors, on ne va pas lire tout le texte, ça serait trop long, 7 chapitres. Mais déjà vous dire que les chapitres 25 à 27 et le chapitre 30 nous parlent de la construction de l'édifice même et des objets du tabernacle. Et les chapitres 28 à 29 et 31 nous parlent du peuple du tabernacle, les personnes, les lévites, les sacrificateurs qui devaient officier dans le tabernacle. Et c'est intéressant de voir que le tabernacle et ses ustensiles doivent être faits selon le modèle de Dieu, selon un modèle que Dieu révèle. Il est dit au verset 9 du chapitre 25, « Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. » Un peu plus loin, chapitre 27, verset 8, « On le fera tel qu'on te l'a montré sur la montagne. » Cela sous-entend que Moïse, à mon sens, il a vu quelque chose. Dieu lui a montré quelque chose. Il lui a dit en quelque sorte, « Tu vois ça ? Je veux pareil, la même chose. » Il lui a montré un sanctuaire céleste, peut-être, là où Dieu demeure au ciel. Hébreux nous dit, chapitre 8, verset 5, « Ceci célèbre un culte, il est question de Moïse et du peuple, qui est une image, une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle, regarde, regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que cette construction, elle est l'image, il nous est dit, elle est le reflet en quelque sorte de quelque chose. Une ombre de réalité céleste. Cette construction, elle pointe vers quelque chose, je pense, de plus beau, de plus grand. Et ça vaut la peine de s'y intéresser. Le tabernacle, il n'est pas la destination finale, mais il est une pancarte qui pointe vers la gloire de Jésus-Christ. Alors on va parcourir ensemble ces instructions et essayer de comprendre voilà, ce que Dieu a voulu mettre en place. Alors, quelques petites notions si vous relisez le texte. Une coudée, il est beaucoup fait mention de dimension, de poids. Donc une coudée, c'est à peu près la taille du bas du coude jusqu'en haut de l'index, à peu près 45 cm. Voilà. Et un talent, c'est à peu près 30 kg, si je ne me trompe pas. 30, 32 kg, si je ne me trompe pas. Alors, il y a énormément de choses. C'est un texte qui est très riche. Et je suis désolé, mais je ne vais pas être exhaustif du tout. Je ne vais pas tout couvrir. Il y a énormément de choses qui sont données sur les objets, sur le tabernacle en lui-même, sur les sacrificateurs, sur la tenue du sacrificateur. Il y a beaucoup de choses qui ont une signification. Mais on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de tout ça. J'ai voulu focaliser sur quelques points uniquement. Donc ne soyez pas frustrés, s'il vous plaît. Au contraire, cela vous encourage à relire ces textes et à chercher. Et puis, il faut savoir que là, on est à l'étape où Dieu donne ses indications à Moïse. Ce n'est pas encore à la construction. La construction, on va l'avoir dans quelques chapitres plus tard. Je ne sais pas qui aura les chapitres de la construction, mais voilà, ça pourra compléter sans doute. Alors, juste, j'avais oublié d'afficher le verset. Allez, une petite vidéo. Si ça marche, ça marche. Voilà. Je vais découvrir ça, puis on en parle ensuite. Bon, c'est une représentation approximative de comment ça pouvait être. Donc on a l'autel, des sacrifices. Ça devait être quelque chose quand même. Plusieurs couvertures qui couvraient donc ce sanctuaire, on en parlera tout à l'heure. Il y avait 4 couches. Et donc là, c'est l'intérieur du lieu saint, où il y a le chandelier, la table des peines propositions, et puis la table où il y avait des parfums qui montaient. On va en parler plus en détail, c'est juste pour vous donner un aperçu. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et puis le lieu très saint où il y a l'arche. Je pense que c'est bon. Hop, on passe à l'image suivante. Les matériaux d'abord. Des matériaux précieux. Des matériaux très précieux. De l'or, de l'argent, de l'airain, du bronze en quelque sorte. Des étoffes, violettes, pourpres et cramoisies. Il faut savoir que les colorants pour colorer ces tissus, c'était quelque chose de rare qui coûtait. Du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintant rouge, des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile, des aromates, des pierres précieuses, sardoine, émeraude, escarbouche, saphir, diamant, opale, agate, améthyste, chrysolite, onyx, jaspe, énormément de matériaux précieux. Et le thème là qui va être construit par les contributions du peuple. Je fais une petite parenthèse là. Dieu, il dit à Moïse, il lui dit, parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi, et vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Et donc l'offrande, donc c'est tous ces matériaux qui vont servir à la construction du tabernacle, elle est assez incroyable. Parce qu'il nous est rapporté donc, les quantités qui ont été accumulées, qui ont été données, et quand on parle d'or, il n'est pas question de quelques kilos, on estime à 1,5 tonne la quantité d'or qui a été apportée. C'est assez impressionnant. On parle de 4 tonnes, 4 d'argent, 3 tonnes de bronze, énormément. Et donc Dieu, il demande quelque chose de Moïse qui est quand même assez incroyable, assez exigeant. Et ce qui est beau de voir ici, je fais une parenthèse, c'est que non seulement il donne quelque chose de très exigeant, mais Dieu pourvoit. Et les ressources, elles viennent de Dieu. Si on lit un peu plus avant, on l'a lu dans les chapitres précédents, Exode 3, verset 21, « Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » Ils ne sont pas partis les mains vides. Et Dieu, il a pourvu, c'est Dieu, il a donné. Et ça me faisait penser un petit peu aujourd'hui, Dieu bâtit son église. Et ce qu'on peut faire, nos constructions, ce qu'on peut mettre en place, ça vient avec nos ressources, mais nos ressources, elles viennent de Dieu. Et non seulement il pourvoit, et puis en plus il donne la connaissance, il donne la compétence. Quand on lit le texte, on voit que ça pouvait, pour Moïse, ça pouvait être quelque chose de très compliqué à faire, mais Dieu a qualifié des personnes, Dieu a donné la sagesse à plusieurs personnes pour que ça puisse avoir lieu. Donc Dieu, il suscite des fois des projets extraordinaires qui peuvent faire peur, mais il faut avoir confiance que derrière, il pourvoit. Il pourvoit dans les ressources, de manière surnaturelle, et il pourvoit aussi dans les compétences, de manière surnaturelle, parce que Dieu, il accomplit son plan. Je ferme la parenthèse. On continue sur la description. Donc l'entrée, j'ai pas de laser, mais bon, vous voyez un petit peu. L'entrée, donc là où il y a l'espèce de tenture de voile multicolore, c'est là qu'on avait accès au parvis. Ça devait être constitué d'un rideau de 20 coudées, c'est-à-dire environ 20 coudées, je vous ai dit tout à l'heure, donc une coudée 45 cm, donc ça fait à peu près 9 mètres. Violet, pourpre et cramoisi de fin lin retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leur socle. De quoi attirer le regard et inviter quiconque voudra s'approcher de Dieu. C'est par là que le peuple aura accès au parvis. pour porter leurs offrandes, pour porter leurs sacrifices. Le parvis. C'est là qu'on accède au parvis. Ça vous dit quelque chose, le parvis ? Moi, je me suis rappelé de psaume. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que de résider sous la tente de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. On a les parvis. C'est le premier espace du tabernacle. Une grande cour rectangulaire d'environ 45 mètres sur 22, délimitée par des rideaux de fin lin blanc, soutenus par des colonnes avec un socle en bronze. Ce sera le seul endroit accessible au peuple. Le seul endroit accessible au peuple. Alors il y aura un autel pour les sacrifices situé juste après l'entrée, vous le voyez. Ce sera un passage obligé. On y offrira les animaux en sacrifice pour l'expiation des péchés. Rien ne pourra se passer plus loin sans que le sang ne soit versé ici. Le tabernacle, en fait, il est l'expression physique d'une réalité spirituelle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors comment ça se passait ? Si on avait été les contemporains de Moïse, comment ça se passait ? L'Israélite, il devait apporter un animal à l'entrée et destiner sa victime à mourir à sa place. Il devait poser les mains sur la tête de l'animal tout en confessant ses péchés. En quelque sorte, il s'identifie à sa victime. En langage imagé, il se décharge de sa faute sur la victime qui devient ainsi son substitut. Cette victime, chargée d'une faute qui n'est pas la sienne, devait être mise à mort par celui qui offre le sacrifice. Il avait un couteau et il devait égorger cette victime. Celui qui l'offrait était alors assuré d'un plein pardon. Je vous regarde là, parce que je ne vois pas. Essayez de vous imaginer si on était encore des contemporains de Moïse. Donc voilà, Farid, il arrive, il a des péchés à confesser, donc il arrive avec un bœuf. Imaginez la scène, il pose ses mains, il confesse ses péchés, et puis là, il doit égorger. Et c'est comme ça que ça se passait en fait. Et les sacrificateurs, qui étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple, ils avaient été mis à part par Dieu. Et une de leurs tâches était d'examiner les bêtes, d'aider à l'égorgement, et surtout, ils recueillaient le sang et ils allaient le porter vers l'autel de l'Holocauste. Et là, ils allaient mettre du sang sur les quatre cornes de l'autel et verser le reste au pied de l'autel. Ensuite, il y a la cuve d'airain, juste derrière. Donc c'est là où vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur, avec les sacrificateurs qui se lavent les mains, entre autres. Elle sera placée, la cuve d'airain, entre l'autel et la tente. Et ça sera une grande cuve pleine d'eau. Les sacrificateurs devront s'y laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint et avant de s'approcher de l'autel pour faire des sacrifices, afin qu'ils ne meurent pas. Il fallait qu'ils se lavent les mains et les pieds avant d'officier au niveau de l'autel ou avant d'entrer dans le lieu saint. Il est beaucoup question de la sainteté de Dieu. Après le parvis vient la tente. Ces parois seront formées de planches de bois d'acacia recouvertes d'or et posées à la verticale sur des socles en argent. La couverture de la tente ne sera pas un simple toit, mais une superposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, de quatre couches successives. On les a vues se poser tout à l'heure sur la petite vidéo. Alors une première tenture qui est du fin lin, retors, blanc, brodé avec du fil violet, d'autres traductions disent bleu, pourpre et cramoisi, avec des chérubins brodés dessus. Et cette première couche, on pourrait dire, elle pourrait symboliser la pureté et la justice. Les chérubins nous rappellent que c'est la demeure céleste. Et Dieu, il est entouré de sainteté. Et c'est un lieu inaccessible pour l'homme. Ensuite, il y a une deuxième tenture qui est faite de poils de chèvre, qu'on va poser sur la première, et qui va être légèrement plus grande pour protéger la première. Dans l'Ancien Testament, la chèvre est l'animal utilisé pour le sacrifice lors du jour des expiations. Et on pourrait dire que ça pourrait être l'image de Christ, notre substitut. Pour que la justice, le lin blanc, soit accessible, il faut qu'elle soit couverte par un sacrifice. Et on va dire que c'est la couche de la substitution. C'est des images. Il n'y a rien de... Ensuite, il y a une troisième couche en peau de bélier teinte en rouge. Le bélier aussi est un animal de substitution. On pense au bélier qui a remplacé Isaac sur le mont Morija. Dieu a fourni un sacrifice à Abraham. Et la couleur rouge renforce l'idée du sang versé. Cela symbolise la dévotion totale, le prix payé. On est protégé par le sang. Et enfin, il y a une quatrième couche de peau de dauphin. Alors, j'ai dit des dauphins. Ça m'a un peu surpris. C'est la couche extérieure. Et c'est celle que tout le monde voyait depuis le camp d'Israël. On pense aujourd'hui qu'il s'agissait de peau de dugon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les dugons. Vous pouvez regarder si vous voulez googler. C'est une espèce de dauphin qui ressemble un peu à un éléphant de mer, voilà, dont la peau pouvait être comme un cuir très résistant, d'un gris terne. Et ce matériau, ce qu'on sait, c'est qu'il était rude, il était sombre, il était résistant aux tempêtes de sable et au soleil brûlant. Et de l'extérieur, le tabernacle, il n'avait rien pour attirer le regard. Et bien sûr, ça nous fait penser à l'image de l'incarnation, Isaïe, qui nous dit « il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort de terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Et dans la tente, le monde voit une tente grise et ordinaire. Mais celui qui entre découvre l'or et la gloire. Il découvre la divinité de Christ. On continue d'avancer. Dans la tente, une première partie, le lieu saint. Les murs seront faits de planches de bois d'acacia recouvertes d'or et on y retrouvera trois objets. Le chandelier d'or, situé à gauche, au sud, ce sera la seule source de lumière, car il n'y a pas de fenêtre. Et le chandelier devra être façonné d'une seule pièce d'or pure et il devra brûler continuellement avec de l'huile sainte. Et ce sont les sacrificateurs qui auront pour tâche son entretien matin et soir afin que la lumière brille continuellement. Ensuite, il y a la table des pains de proposition située à droite, au nord. Elle sera en bois d'acacia recouverte d'or pur aussi. On y déposera chaque sabbat 12 pains représentant les 12 tribus. Et chaque sabbat, les sacrificateurs auront pour tâche de disposer 12 pains frais sur la table et manger les pains de la semaine précédente dans le lieu saint. Et puis on a l'autel des parfums qui est juste devant le voile, qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Il sera carré en bois d'acacia et recouvert intégralement d'or pur. On y fera brûler du parfum aromatique matin et soir. Et ici aussi, c'était le rôle des sacrificateurs. Vous noterez que ce n'est pas les mêmes matériaux qui sont utilisés dans le parvis que dans le lieu très saint. Dans le parvis, on a des objets qui sont en bronze, un métal qui résiste au feu. À l'intérieur du lieu saint, tout est en or. Ça devait être vraiment impressionnant. Tout est en or, symbolisant la royauté, la gloire divine, la valeur infinie de Dieu. Et puis on a ce voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Il sera fait de lin retors et de fils de couleur pourpre, bleu et cramoisi, avec comme ouvrage d'art des chérubins brodés dessus. Ça aussi, ça m'a interpellé quand j'ai lu le texte. Il y a beaucoup de « il sera fait avec art ». Il sera fait avec art. C'est répété plusieurs fois. Ça sera un ouvrage d'art. Il y a vraiment quelque chose de somptueux, de travaillé. Et donc là, sur ce voile, il y avait des chérubins qui étaient brodés dessus. Et ce voile, il servira de barrière et personne n'aura le droit de le franchir sous peine de mort. Sauf le souverain, le grand souverain sacrificateur, une seule fois par an, le jour des expiations. Il faut remonter à la Genèse, Genèse 3, verset 24, pour trouver les chérubins pour la première fois dans l'Écriture. Il nous est dit, Genèse 3, verset 24, « Après avoir chassé l'homme, il met à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ces gardiens étaient placés devant la porte du jardin d'Éden. Avec une épée tournoyante, ils devaient interdire, en fait, au couple humain pécheur de revenir dans la présence de Dieu et à l'arbre de vie. Pas de retour possible à la communion avec Dieu. » Et c'est sans doute ce que devait signifier la présence de ces chérubins sur ce voile. Pour l'homme pécheur, il n'y a point de relation possible avec son Créateur. Enfin, il n'y a pas d'accès à sa présence. Et puis enfin, derrière ce voile, on avait le lieu très saint, le Saint des Saints. Ce sera une pièce parfaitement cubique, image de la perfection, plongé dans l'obscurité, si ce n'est la lumière surnaturelle de la gloire de Dieu. Et elle ne contiendra qu'un seul objet, l'Arche de l'Alliance. Ce sera un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur, contenant les tables de la loi, une urne de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et sur le dessus du coffre, la plaque avec donc les chérubins, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche, surmonté de deux chérubins en or battu se faisant face. C'est à cet endroit précis que le sang était versé une fois par an. Et c'est là que Dieu dit à Moïse qu'il le rencontrera du haut du propitiatoire. Donc le grand souverain sacrificateur, une fois par an, devait venir avec le sang du sacrifice et y verser ce sang sur ce couvercle. Seul le souverain sacrificateur pouvait faire ça. Aaron, puis ses successeurs, avaient cette charge que les autres n'avaient pas. Il portait le peuple sur son cœur, il avait un pectoral, j'en ai parlé rapidement, il avait des vêtements, vous pourrez lire en détail, ornés de 12 pierres précieuses qui représentaient littéralement les noms des fils d'Israël devant l'Éternel. Il venait présenter devant l'Éternel. Et une fois par an, il était le seul à franchir le voile pour entrer dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice qu'il versait sur le propitiatoire pour couvrir les péchés, ses péchés et ceux du peuple. Et puis à l'intérieur, je l'ai dit tout à l'heure, de l'arche, il y avait les tables de la loi qui en quelque sorte révélaient la culpabilité du peuple qu'il avait transgressé. Et en aspergeant le sang sur le propitiatoire, le sang y venait s'interposer entre la loi et la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui juge. Et la colère juste de Dieu contre le péché, elle était détournée et apaisée par le sacrifice d'un substitut. Voilà à quoi allait ressembler le tabernacle, le sanctuaire, la demeure de Dieu pour les contemporains de Moïse. Dieu dit dans Exode, versets 29, 43, 46, « Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Et pour nous, aujourd'hui, eh bien, sans Jésus, les amis, on en serait encore là. Je pense que l'ambiance ne serait pas la même, il n'y aurait pas les mêmes odeurs, mais on en serait encore là. Comme je l'ai dit avant, la parole a été faite chair et elle a habité. Elle a dressé sa tente. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair et il est question de Jésus qui est venu. Le tabernacle n'était pas l'aboutissement du plan de Dieu. Souvenez-vous, il n'était qu'une image, qu'une ombre des biens à venir et non pas encore l'exacte représentation des réalités. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tente, il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus de temple. Car Christ, en entrant dans le monde, a dit, on va prendre Hébreu un petit peu, parce qu'Hébreu nous parle de tout ça. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme. Imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'ait pas été construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Il y a un sanctuaire dans les cieux où Jésus s'est présenté avec son propre sang pour nous obtenir cette rédemption éternelle, le pardon des péchés. Hébreux nous dit que la loi et les sacrifices, les holocaustes, n'étaient pas suffisants pour amener à la perfection celles et ceux qui voulaient s'approcher de Dieu. La séparation entre le peuple et le Dieu très saint demeurait, quand bien même il y eut les sacrifices. Mais Jésus, nous dit Hébreux, chapitre 10, verset 14, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Jésus, par une seule offrande, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Jésus, il a porté le poids de nos péchés. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Et quand il est mort sur la croix, le voile dont on parlait tout à l'heure, qui séparait le lieu saint du Dieu très saint, dans le temple, s'est déchiré. Il s'est déchiré de haut en bas. Vous savez que l'épaisseur du temple, nous est dit, faisait à peu près la taille de la paume de la main, 12 cm. Je vous mets au défi de tirer le voile chacun d'un côté et de le déchirer d'en haut jusqu'en bas. Et pourtant aussi, c'est ce qui s'est passé. Quand Jésus est mort sur la croix, quand il a dit « tout est accompli » et qu'il a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré de haut en bas. Les rochers se sont fendus. Il y a eu un tremblement de terre. Des tombeaux se sont ouverts. Des saints sont revenus à la vie. Le voile disait « n'approchez pas ». Si vous franchissiez le voile, vous mourriez. Mais le sang versé sur le propitiatoire annonçait « il y a un moyen ». Il y a un chemin nouveau. En Christ, le voile est déchiré. Il y a un chemin nouveau ouvert au travers de sa chair. Il y a aujourd'hui une alliance meilleure que Jésus a obtenue pour nous. Il y a un chemin nouveau qui mène à un sanctuaire dans les cieux, la maison de Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus. Et dans Hébreux, si on continue, il nous est dit « Ainsi, donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous ne pouvez venir à Dieu qu'au travers de Jésus, qu'en acceptant qu'il soit mort comme victime expiatoire pour votre péché. Et pour celles et ceux qui n'acceptent pas Jésus, comme le Seigneur et Sauveur, point de salut, point d'accès à ce sanctuaire. Le voile sera toujours là. Vous ne pourrez pas venir dans la maison de Dieu. Il y a un chemin, il y a un seul chemin, c'est Christ. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle extraordinaire. Et pourtant, j'aimerais nous poser la question, est-ce qu'on a vraiment compris cela? Quand on a eu notre semaine de jeûne et prière, par deux fois, le Seigneur nous a invités à venir dans sa présence, à prendre conscience qu'en Christ, nous avons accès à sa divine présence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le mardi soir, on avait symbolisé le Dieu très saint avec les quatre poufs et on avait invité symboliquement les personnes à venir juste pour rappeler de ce que ça veut dire, le sacrifice de Jésus pour nous. Il a ouvert un chemin nouveau et on avait invité les personnes qui étaient là à venir physiquement dans ce carré juste pour y symboliser, mais prendre conscience de ça. Et ce qui m'a touché, c'est que le samedi soir, on a eu cette réunion et Kali, qui n'était pas là, a eu cette même pensée, cette même invitation. Et je crois que le Seigneur, il nous invite encore et il veut nous parler encore à venir dans sa présence, à prendre conscience qu'en Christ, on a accès à sa divine présence. Comme si malgré tout, plusieurs d'entre nous restaient sur le parvis. Pourquoi ? À cause de la culpabilité ? Peut-être. Comme s'il fallait qu'un sacrifice soit fait. Jésus est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. L'Écriture nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Pour nous purifier de toute injustice. Jésus, il a traversé le tabernacle dans les cieux. Il est entré dans le sanctuaire avec son propre sang pour t'obtenir une rédemption éternelle. Pour toi. Pour moi. Ça, c'est extraordinaire. Le mardi soir, justement, quand on avait la semaine de jeûne et prière, je nous ai invités symboliquement à venir dans ce lieu très saint et à regarder la face de Dieu. Et là, j'aimerais rectifier quelque chose. Seul Christ s'est présenté pour nous devant la face du Père. Nous, on ne le voit qu'en partie aujourd'hui, comme dans un miroir. On ne connaît que partiellement. Et c'est seulement quand Jésus reviendra, alors, que nous le verrons face à face, tel qu'il est. On est dans le déjà et pas encore. On a les prémices. Ça boue. Mais on ne le voit pas encore face à face tel qu'il est. On a cette assurance d'un libre accès au sanctuaire, la maison de Dieu, par le sang de Jésus. Saisissons cette vérité pour nos vies. Vraiment, je vous encourage à relire ces textes, à relire Hébreux, à prendre conscience de ce que ça veut dire pour vos propres vies. Dieu a payé. Ce n'est pas la peine de rester sur le parvis. Vous pouvez prendre du temps dans sa présence. Dieu est, je l'ai dit tout à l'heure, il est omniprésent, il est là, au milieu de nous ce matin. Prenons conscience, prenons des temps individuels et communautaires, mais où on est dans cette présence de Dieu, où on est en Christ, et Christ, il est à la droite de Dieu, et Dieu, il a ce désir, c'est son plan en fait. Il veut se révéler à chacun d'entre nous et il veut toucher nos cœurs, il veut nous parler. Il veut nous encourager, il veut nous fortifier, il veut nous parler au travers de sa parole. Il a envoyé son esprit. Pour nous toucher, pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous diriger. Saisissons vraiment ce cadeau. Amen. Soyez fortifiés et encouragés.